Le lendemain, en rentrant de l'école du Louvre, Saturnine trouva sur son lit un carton. À l'intérieur, une longue jupe en velours doré et un mot. En souvenir du champagne d'hier soir, j'espère qu'elle est à vos mesures. Signé, Don Elemirio Nibali Milcar. L'espace d'une seconde, Saturnine se demanda si elle pouvait accepter. Elle balaya cette pensée inhumaine. La somptueuse étoffe lui inspirait un désir qu'elle aurait pleuré de ne pas satisfaire. Elle se déshabilla. Dans l'armoire, elle saisit un corsage noir qu'elle enfila, puis elle revêtit la jupe en retenant son souffle. Elle épousait si parfaitement sa taille qu'elle eut l'impression d'une étreinte amoureuse. Des bottines noires à hauts talons complétèrent l'ensemble. La psyché lui renvoya une image saisissante. « Je n'ai jamais porté un vêtement aussi élégant de ma vie », songea-t-elle. Elle passa un temps interminable à contempler son reflet et surtout à caresser ce velours. Elle en frémissait de plaisir. L'or de la jupe chatoyait autour d'elle. Quand Mélène l'appela pour dîner, Saturnine courut rejoindre l'Espagnol. Il la regarda comme si c'était une apparition. « Vous êtes parfaite !» clama-t-il. « Vous avez deviné mes mensurations. On sent l'homme à femme. Si vous saviez comme ce terme ne me convient pas. À ma connaissance, vous avez eu au moins 8 femmes. Ce n'est pas rien. Qu'appelez-vous avoir une femme ? Ça devient déplacé, cette conversation. Où avez-vous trouvé cette superbe jupe ? Je l'ai confectionnée de mes mains. » Saturnine se figea d'incrédulité. La couture est l'une de mes passions. Quand je me suis retirée du monde, je venais d'acheter une machine à coudre. Les vêtements d'aujourd'hui me désespèrent par leur vulgarité. Ceux que je porte sont quelconques, me direz-vous. Il y a 20 ans déjà, ce quelconque était devenu introuvable. Ce pantalon représente 3 heures de travail. Hier matin, j'ai envoyé Hilarion à la recherche du plus beau velours doré. 5 heures plus tard, Mélène posait sur votre lit mon œuvre. Nous pourrions la baptiser la jupe champagne. Permettez, la jupe Dom Pérignon. Après 5 heures de couture, je n'avais plus la force de cuisiner. Mélène nous a rapporté de bonnes choses de chez Petrosian. Caviar, blini, crème aigre et vodka. M'en voulez-vous si nous nous passons de champagne ce soir ? Vous plaisantez ? J'ai toujours rêvé d'un dîner caviar-vodka. Et puis, votre jupe joue le rôle du champagne. J'ai observé que vous ne vous serviez pas du frigo que j'avais mis à votre disposition. J'y ai donc entreposé une partie de notre stock. Il l'ouvrit pour en montrer à Saturnine le contenu. L'éclairage électroménager révéla la présence d'une population importante de bouteilles des meilleures maisons. « Un frigo à champagne ! » s'écria-t-elle. « Vous en prenez quand vous voulez. » « Un conseil, » dit-il encore. N'attendez pas d'avoir dégluti le caviar pour boire la vodka. L'idéal est de faire exploser les petits œufs sous ses dents en les mêlant à l'alcool glacé. Elle s'appliqua à suivre le protocole avec délices. Vous avez raison, c'est infiniment meilleur. À ce compte-là, nous finirons ivres-morts. La très sainte Russie nous y contraint, souligna Don Elemirio. Saturnine se concentra sur son plaisir. Il n'y a pas plus excitant qu'un tel repas. Une demi-heure plus tard, elle se sentit la proie d'une euphorie extraordinaire. Vous êtes riche, vous disposez d'un logement pharaonique au cœur de Paris, vous cuisinez bien, vous cousez comme une fée. Vous seriez l'homme idéal. N'était votre vice
le trafic des indulgences ?
Voilà, dit-elle en riant. Parmi mes qualités, vous avez oublié de mentionner que je suis l'homme le plus noble du monde. Je range ça au nombre de vos défauts. En soi, ça m'est égal, mais que vous en soyez si fière, c'est rédhibitoire. Avez-vous confectionné des vêtements pour chacune de vos femmes ? Bien sûr. Penser un habit pour un corps et une âme, le couper, l'assembler, c'est l'acte d'amour par excellence. À la faveur de l'alcool, Saturnine avait baissé sa garde. Elle le laissa parler. Chaque femme appelle un vêtement particulier. Il faut une suprême attention pour le sentir. Il faut écouter, regarder. Surtout ne pas imposer ses goûts. Pour Emeline, ce fut une robe couleur de jour. Ce détail du comte Podane l'obsédait. Encore fallait-il décréter de quel jour il s'agissait. Un jour parisien, un jour chinois, et en quelle saison. Je dispose ici du catalogue universel des coloris, taxinomie établie en 1867 par la métaphysicienne Amélie Casusbelli, une somme indispensable. Pour Proserpine, ce fut un chapeau claque en dentelle de Calais. Je me suis arraché les cheveux pour conférer à ce matériau fragile la raideur, mais aussi la capacité d'escamotage que suppose le chapeau claque. J'ose dire que j'y ai réussi. Séverine, une sévrienne un peu sévère, avait la délicatesse d'un sèvre. J'ai créé pour elle la cape catalpa, dont l'étoffe avait le bleu subtil et le tombé des fleurs de cet arbre au printemps. Incarnadine était une fille du feu. Cette créature nervalienne méritait une veste flamme, véritable pyrotechnie d'Organdi. Quand elle la portait, elle m'incendiait. Térébenthine avait écrit une thèse sur l'EVA. J'ai fondu un pneu pour en récupérer la substance ductile et réaliser une ceinture corselet qui lui conférait un port admirable. Mélusine avait les yeux et la silhouette d'un serpent. Je la complétais d'un fourreau sans manche à col roulé qui descendait jusqu'aux chevilles. J'ai failli apprendre à jouer de la flûte pour la charmer quand elle était ainsi vêtue. Albumine, pour des motifs que je ne crois pas devoir expliquer, fut la raison suffisante à l'existence d'un chemisier coquille d'œuf au col meringue, en polystyrène expansé, une véritable fraise. Je suis pour le retour de la fraise espagnole. Il n'y a pas plus saillant. Quant à Digitaline, une beauté vénéneuse, j'ai inventé pour elle le gant mesureur. De longs gants de taffetas pourpre qui remontaient au-delà du coude et que j'avais gradués pour illustrer l'adage latin de Paracels, « Dosis sola facit venenum ». Seule la dose fait le poison. Pourquoi riez-vous? Le pronostic est imparable. Après moi, votre colocataire s'appellera Margarine et vous dessinerez pour elle un manchon de pure graisse. Vous n'avez pas le sens du sacré. Pardonnez-moi, c'est l'excès de vodka. Alors, vous vous souvenez de toutes vos femmes? Ce ne sont pas mes femmes. Il s'agit des femmes que j'ai aimées. Et qui furent toutes vos colocataires. Oui, la colocataire est la femme idéale. Enfin, presque. Ce presque est une macabre litote. Quand avez-vous commencé à recruter des colocataires, pour les nommer ainsi? Il y a 18 ans. J'ai cessé de sortir il y a 20 ans. Le manque de femmes n'a pas tardé à me tarauder, mais il me fallait un dispositif. La solution m'est apparue en lisant le journal, ce qui ne m'arrive pas souvent. Il y avait une rubrique « colocation » dans les petites annonces. J'ai écarquillé les yeux. Il ne me restait plus qu'à publier ma petite annonce. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Vos parents sont morts il y a 20 ans, n'est-ce pas? Oui, un tragique accident. Mon père, Don Deodato Nibali Melcar, adorait cueillir des champignons. Dans la forêt de Fontainebleau, il avait ramassé un plein panier de l'épiote couronnée qu'il avait cuisiné lui-même. Classique, c'était un champignon similaire mais mortel et vous étiez le seul à n'y avoir pas touché. Au contraire, j'en avais mangé plus que mes parents. Les indulgences m'ont sauvé. Je ne comprends pas. Je vous l'ai dit, quand je donne de l'or à mon confesseur, je digère tout. Mon père réprouvait le trafic des indulgences. Au milieu de la nuit, ma mère s'est plainte de douleurs d'estomac. Les champignons avaient cuit dans du beurre. Mon père, qui ne se sentait guère mieux, est allé chercher du bicarbonate de soude. Sauf qu'il s'est trompé. Au lieu du bicarbonate, il a pris les nitrates dont il se servait comme engrais pour ses rosiers. Il a administré une bonne dose de nitrate à son épouse, puis il a avalé sa part. Quelques minutes plus tard, une déflagration réveillait la maisonnée. Mes parents avaient explosé. Pour de vrai ? Oui, un spectacle poignant, ces morceaux de grande Espagne dans le lustre et le ciel de lit. C'est aussi pour cela que j'ai congédié toute la domesticité. Comment voulez-vous obtenir le respect d'une valtaille qui a ramassé les débris de votre ascendance? Saturnine réfléchit d'un air renfrogné avant de s'exclamer. Je ne vous crois pas. Vous devriez inventer des mensonges moins énormes. C'est vous qui avez assassiné vos parents. Vous êtes folle. Moi qui les adorais, nuire à mon noble père, à ma sainte mère? Vous n'êtes pas à cela prêt? Arrêtez avec vos fantasmes. Vous m'offensez. J'ai fait enterrer mes parents dans l'intimité, au cimetière de Charonne. C'est la dernière fois que j'ai quitté le périmètre de cette demeure. Attendez, votre histoire ne tient pas debout. Vous n'avez pas pu récolter le témoignage de votre père. Donc comment pouvez-vous savoir qu'il voulait ingérer du bicarbonate de soude? En cas de mauvaise digestion, il ne jurait que par ce produit.
Vous n'avez aucune preuve qu'il ait voulu prendre ce bicarbonate et qu'il l'ait confondu avec les nitrates.
En effet, mais c'est évident.
Vous trouvez ?
Les nitrates étaient placés juste à côté du bicarbonate, dans un bocal identique.
Drôle de rangement ?
Non. Les rosiers étaient sur la terrasse attenante à la salle de bain.
La police s'est-elle penchée sur cette affaire ?
Oui, elle a conclu à une indigestion.
Vous ne lui auriez pas versé des indulgences, elle aussi ?
Le sujet ne prête pas à la plaisanterie. À la mort de mes parents, j'ai su que je ne vivrais pas comme eux. Ils sortaient et recevaient sans cesse. Je n'en avais ni la capacité ni le désir. Je me suis installée dans cette existence autarcique. Mon ambition était de devenir un œuf.
C'est là que vous avez été rattrapée par votre obsession des femmes.
Obsession, le terme est exagéré. Disons qu'un œuf a besoin d'être couvé.
Vous avez de ces métaphores. Quand j'ai passé la première petite annonce, 4 jeunes filles se sont présentées. Ça vous a donné un sentiment de pouvoir, ces castings, n'est-ce pas ?
Je n'ai jamais eu l'impression de choisir. Comme dans votre cas, il y avait une évidence et il n'y en avait qu'une.
Emeline n'était pas la plus belle. Elle était la seule et elle était belle.
Je me permets de vous faire remarquer qu'à l'époque, je n'avais pas cette réputation sulfureuse et que cela n'a pas empêché l'agent féminine d'accourir.
Moins nombreuse,
certes. Je suis tombée amoureux d'Emeline et elle aussi.
Toutes mes colocataires se sont éprises de moi en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, sauf vous.
Parfois, je me demande si ce n'est pas parce que vous êtes belge.
Honneur à mon pays.
Ne dit-on pas le plat pays ? N'y a-t-il pas une platitude belge ?
C'est vous qui dites des platitudes.
J'ai cru que ce bonheur serait perpétuel.
Emeline était bassoniste. On n'entend jamais le basson sans un autre instrument. Les femmes, c'est un orchestre. On peut jouir de l'ensemble très longtemps. Et puis un jour, on décide d'isoler une concertiste. On scrute. Et soudain, on repère la bassoniste tellement plus gracieuse, et on décide de ne plus écouter que sa musique. Même en pleine symphonie, on n'entend plus que le basson. Bientôt, les violons, le piano et les voix résonnent comme une cacophonie, et on prie la bassoniste de venir exécuter chez soi un solo éternel.
Et c'est là que vous avez eu l'idée funeste de la chambre noire.
Vous simplifiez.
En tout cas, les photos, c'est un bobard. Je ne vous ai jamais vu prendre de photos.
J'attends l'inspiration.
Vous n'avez pas les attitudes d'un photographe ? Je vous ai observé. Jamais vous ne cadrez avec vos yeux, jamais vous ne vous taisez devant une image. Au contraire, vous parlez inlassablement. Je vous fiche mon billet que vous n'avez jamais touché un appareil photographique.
Habile provocation pour que je vous montre mes clichés.
Vous ne doutez de rien, vous. On devrait taxer l'autosatisfaction.
Oui, l'idée de la chambre noire m'est venue à cette période.
C'est logique. Un célibataire n'en a pas besoin. C'est quand on s'apprête à partager sa vie avec son amour que la nécessité apparaît.
Je crois savoir que vous n'avez jamais aimé. À plus forte raison, vous n'avez pas l'expérience de la cohabitation amoureuse. Eh bien, ce n'est pas si simple.
Quand la chaumière comporte 30 pièces comme ici, ce doit être un peu plus facile, non ?
L'ambiguïté n'en est que plus grande. Où commence son territoire, où s'arrête celui de l'autre ?
Il y a une géographie amoureuse qui vaut les cartographies guerrières.
Il me semble que dans un studio, la menace de crise est si puissante que le couple fait d'emblée plus d'efforts. C'est une question de vie ou de mort.
Avec vous, surtout, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez prouvé que cela dépendait du caractère et non de la superficie.
Vous verrez quand cela vous arrivera. On croit que l'amour est fusionnel.
Sous le même toit, il le devient beaucoup moins.
C'est de votre faute. Si vous n'aviez pas sottement décidé de ne plus sortir de chez vous, vous n'auriez pas trouvé l'autre si encombrant.
J'admire votre ton ex-cathédra pour évoquer un sujet qui vous est étranger.
Ne pensez-vous pas que tout être humain a droit à sa chambre noire ?
Ce qui me choque, c'est d'en faire une menace.
Tout droit implique une sanction en cas d'infraction. C'est ainsi.
Une sanction qui ne soit pas disproportionnée. Dans votre système, la sanction est bien pire que le crime.
Ce n'est pas de mon fait.
Voilà pourquoi je refuse d'avoir cette conversation avec vous. Je finirai par croire en la génétique.
Vous êtes d'une mauvaise foi carthaginoise.
Si vous n'êtes pas responsable, qui l'est ?
Celle qui transgresse l'interdit.
Réponse odieuse, inhumaine.
Réponse aristocratique.
Votre attitude me rappelle celle d'une bande d'agriculteurs belges, il y a quelques années. Des enfants, lors d'un jeu, avaient saccagé un champ de maïs. Furieux, les fermiers leur avaient tiré dessus à la carabine, blessant grièvement plusieurs gosses. Aux informations télévisées, un journaliste avait interviewé des cultivateurs de la région. N'est-il pas scandaleux de tirer sur des enfants ? Chaque fermier avait répondu « Fallait pas aller dans le maïs ». Votre attitude n'a rien d'aristocratique, c'est la logique des abrutis.
La télévision belge m'a l'air bien divertissante.
Je ne supporte pas vos échappatoires, je vais me coucher. Saturnine partit sans entendre ce que marmonnait Don Elemirio.
Vous ne supportez pas mes échappatoires, mais c'est vous qui fuyez. Et comment pouvez-vous comparer mes secrets à du maïs ? Enfin, ma victoire de ce soir, c'est que vous portiez la jupe. Même si cela n'a sûrement pas pour vous le sens que cela a pour moi.